que le cinéma nous emporte par sa beauté, sa force et sa joie.
Le cinéma aura été ma vie.
Je veux... Je veux très embrasser avec tout mon cœur et merci beaucoup.
Le cinéma, c'est comme l'amour. Quand c'est bien, c'est formidable. Quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. Bon festival!
Tous les cinémas du monde.
En direct du Festival de Cannes.
Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Des centaines de films d'auteurs du monde entier, des découvertes de Mongolie ou du Soudan et des réalisateurs confirmés, des stars américaines et des blockbusters, sans oublier quelques polémiques qui font toujours monter la tension et pimentent la sélection. Vous avez la recette du Festival de Cannes. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Pardon, je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes.
Nous retrouvons toujours avec plaisir le pavillon des cinémas du monde, juste en surplomb de la plage de l'hôtel Majestic, là où RFI a installé son studio. Le coup d'envoi du 76e Festival de Cannes a été donné mardi dernier. 21 longs métrages sont en lice pour la Palme d'Or, qui sera décernée dans une semaine par un jury présidé par le Suédois Ruben Östlund. Voilà pour la sélection officielle, dont nous tirerons dans quelques instants les premiers enseignements. Mais cette émission sera largement consacrée aux deux sections parallèles dont RFI est partenaire. Bonjour Ava Kahn.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale de la Semaine de la Critique et vous nous parlerez de la conception de votre deuxième sélection à ce poste. Bonjour Maria Machoukeli.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice et vous signez le film Ama Gloria, le film qui a eu les honneurs de l'ouverture de la Semaine de la Critique. Et bonjour Julien Rège.
Bonjour.
Vous venez de prendre les rênes de la quinzaine des cinéastes, donc pour vous c'est une première, même si vous connaissez bien le poste de programmateur et avez des idées fortes pour la section portée par la Société des réalisateurs et réalisatrices de films.
Je suis la voix, une des voix, et je déclare ouverte les toutes premières marches de ce Festival de Cannes, 76e du nom. La deuxième voix, vous allez l'entendre.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et tous.
Bonjour Victor.
Ça y est, 76e édition qui s'ouvre dans quelques instants.
Quand on est sur un tapis rouge comme ça et qu'il y a entre 250 et 300 photographes, c'est vu dans le monde entier.
Johnny Depp, My Way, c'est une des premières images.
La curiosité, c'est la qualité indispensable à tout bon festivalier qui se respecte.
Il y a beaucoup de stars internationales qui sont très connues, qui vont venir.
J'attends l'ouverture pour l'emplacement, pour être juste devant le tapis rouge, pour voir les stars qui descendent des voitures, des autographes, des selfies.
Voilà pour l'ambiance d'une montée des marches au Palais des Festivals, une ambiance, une carte postale sonore signée de notre réalisatrice Apolline Verlon. Alors que dans quelques minutes débutera l'une des montées les plus attendues de ce festival, celle du nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Elisabeth, on est donc à quelques jours déjà de l'ouverture de ce 76e festival. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est le retour à la normale, back to basics ?
Oui, c'est aussi, et on aura aussi l'occasion d'en parler, une sorte de reboot. Alors, back to basics, oui, parce que le spectateur, qu'on disait à jamais vautré sur son canapé, à zapper de la télécommande Netflix, est revenu dans les salles, partiellement, mais quand même, on a des très très bons chiffres, et ce, dans le monde entier, à l'exception de la Corée du Sud, ce qui devrait être une très bonne nouvelle pour le marché. On aura les chiffres, Sophie, dans quelques jours. Donc oui, on a bien l'impression que ce festival a retrouvé sa vitesse de croisière. Et d'ailleurs, on sent un peu encore les effets de la pandémie sur le cinéma asiatique, qui n'est pas très très présent dans les sections, mais quand même la Chine, qui était quasiment absente depuis 3 ans de la croisette, est revenue, entre autres avec deux films de Wang Bing, dont le très impressionnant Jeunesse, qui est en compétition. Dans les sections parallèles aussi, la quinzaine programme mardi prochain, je crois, un film chinois de Xian Zheng, Song Sang Blue. Et vous, Ava Kahn, vous avez reçu aussi beaucoup de films asiatiques, entre autres chinois cette année.
Beaucoup, et c'est vrai qu'on a constaté avec le comité de sélection que l'Asie du Sud-Est particulièrement était très en forme cette année. On a reçu des films de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande, voilà. Et en sélection cette année, en compétition, il y a un film malaisien, Tiger Stripes, réalisé par Amanda Nelieu, et également un film coréen de Jason Yu qui s'appelle Sleep. Donc voilà, l'Asie est fortement représentée à la semaine de la critique et également du côté du court-métrage, puisque nous avons un très beau court-métrage chinois en compétition.
Donc Back to Basics, mais peut-être encore mieux, mais aussi, vous le disiez, Elisabeth, reboot, c'est-à-dire comme une renaissance, comme l'annonçait aussi à sa manière Thierry Frémaux lors de la conférence de presse juste avant l'ouverture du 76e Festival de Cannes.
Ce qu'il y a de formidable, c'est que la présence, l'importance grandissante des réalisatrices dans le cinéma fait que, comme en littérature ou en musique, le regard féminin, les histoires féminines vont arriver d'une autre manière dans le monde du cinéma. Et il y avait quelque chose qui manquait. Par exemple, en Afrique du Nord ou en Afrique, Mati Diop a représenté le Sénégal il y a 3 ans, 4 ans. On se retrouve en Afrique du Nord également. Mariam Touzani, qui était au Certains Regards, est également au jury cette année. Kauter est en compétition, réalisatrice tunisienne. On s'aperçoit que des pays inattendus créent une nouvelle génération de réalisatrices.
Thierry Frémaux, donc, manifestement content, satisfait, Elisabeth, d'avoir beaucoup de femmes en sélection, donc un reboot.
Bah, c'est vrai que tout le monde se réjouit qu'il y ait 7 réalisatrices dans la compétition, qu'il y en a beaucoup plus de toute façon dans toutes les sections, de toute évidence. Alors certains disent que c'est parce qu'il y a plus de films, mais effectivement, on peut parler de plus de films faits par des réalisatrices. En fait, la réalité, c'est qu'on a l'impression que toutes les sections, à commencer par l'officiel, ont fait leur examen de conscience et qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout dire, alors vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, Ava Kahn, mais qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut plus du tout dire, comme c'était le cas il y a 5 ou 6 ans, que la parité n'est pas un problème et que ce n'est pas un problème s'il y a 0 femme ou une dans une compétition d'une vingtaine de films.
Mais je crois qu'on y travaille, en réalité, pour rendre de plus en plus visible le travail des réalisatrices du monde entier. Alors la problématique n'est pas que française. Évidemment qu'il y a des territoires où c'est plus difficile de faire exister aussi le cinéma tout court, le cinéma réalisé par des hommes comme par des femmes. Et c'est vrai que nous, on est une sélection un peu privilégiée, j'allais dire, avec des premiers et des deuxièmes films, et qu'on reçoit un volume de films réalisés par des femmes assez conséquent. Et donc, on n'a pas eu de mal, en réalité, on ne s'est pas forcé à faire une sélection tout à fait paritaire, puisqu'on a à la fois en court-métrage et long-métrage un 50-50. Voilà.
Julien Reige, en revanche, il n'y a pas de... Ça, je sais que lors de la conférence de presse de la CASEN, vous aviez évacué l'aspect quota, en tout cas,
oui,
ou
voilà.
Parité.
J'ai pas évacué la question de la parité, puisque je pense qu'effectivement, le renouvellement des consciences passe par plusieurs étapes. D'abord, par la nécessité de composer au sein du comité de sélection une parité au sein de l'équipe. Je pense que la parité commence par celle des regards et que c'est par cette diversité au sein du process de sélection qu'on peut arriver à avoir plus de diversité dans le choix final. Par ailleurs, je distingue toujours le travail de prospection du travail de sélection. Je pense qu'effectivement, c'est notre devoir au moment où on va chercher les films, où on va les découvrir, de porter une attention particulière aux cinématographies sous-représentées et dont, effectivement, les films réalisés par des femmes cinéastes. Ce que j'essayais de faire entendre, justement, au moment de la conférence de presse, c'était qu'une fois que nous avons fait ce travail de recherche, de visionnage, et que nous avons essayé de repérer au maximum les propositions sous-représentées, nous élaborons ensuite, à partir de notre shortlist, la liste tout simplement des meilleurs films que nous avons envie de montrer.
L'effet marquant, il y en a un quand même, et de taille, Elisabeth, c'est la présence de films africains tournés en Afrique cette année, qui est vraiment particulièrement importante.
Et là aussi, on peut se poser la question peut-être d'un infléchissement salutaire du regard des programmateurs. 6 films en sélection officielle, je crois que c'est du jamais vu, dont 2 films de réalisatrices africaines en compétition, c'est aussi une première. Donc Banal et Adama, premier film de la franco-sénégalaise Ramatou Toulaïsi, qui vient de monter les marches avec son équipe, et puis Les filles d'Olfa, de la tunisienne Kauter Benania. Donc Thierry Frémaux le qualifiait pendant la conférence de presse de film essai, et c'est exactement ça. La réalisatrice part d'une histoire qui a bouleversé la Tunisie il y a quelques années, donc une femme qui a vu ses 2 filles aînées rejoindre Daesh en Libye. Et donc, Kauter Benania, elle rassemble dans un appartement la vraie Olfa, son double de fiction, joué par la star Hène Sabri. Les deux filles radicalisées sont jouées par des actrices, et les 2 cadettes, en revanche, sont les vraies protagonistes, c'est-à-dire les vraies filles d'Olfa. Et donc, elle fait raconter et rejouer cette histoire à ce casting mixte. Autant vous dire que c'est une matière hautement inflammable, hein, moralement, cinématographiquement, puisqu'il s'agit pas seulement de sonder la douleur des victimes à la manière d'un reportage télé, mais d'utiliser l'artifice de la fiction en fait pour interroger le réel, l'augmenter et même parfois le déconstruire. Donc c'est un film bouleversant parce qu'on est constamment surpris, renversé dans ses clichés. Je pense que vous l'avez vu, Julien Rège, et bouleversant aussi en ce qu'il raconte ce que le patriarcat fait aux femmes.
J'ai eu l'occasion de le voir. Kauter était la présidente l'an dernier du jury de la Semaine de la Critique. Donc je suis d'autant plus heureuse de voir que Les filles d'Olfa se retrouvent en compétition cette année. Et c'est vrai que je pense que c'est un film dont on va parler. Inflammable est le bon mot.
L'Afrique, on en parle. Et c'est vrai que ça, voilà, il n'y a pas qu'à l'officiel. Il y a le documentaire. Enfin, pardon, c'est pas un documentaire en plus, mais non, parce qu'elle vient du documentaire.
Voilà,
Rosine Bakam, Mambar Pierrette à la quinzaine, Julien Rège.
Oui, oui, tout à fait. Justement, alors, pour rejoindre ce que dit Elisabeth, je trouve ça tout à fait intéressant qu'une cinéaste comme Rosine Bakam, qui vient du documentaire et qui avait beaucoup interrogé sa position de cinéaste vis-à-vis de la représentation des personnes africaines au sein d'un cinéma occidental, elle avait adopté à l'époque une position de documentariste avec laquelle elle essayait à chaque fois de ne pas se masquer en tant que cinéaste, pas forcément à l'écran, mais en tout cas sa participation était tout le temps requise dans le film. Et là, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'elle passe par les voies de la fiction pour raconter le quotidien d'une femme camerounaise pris dans différentes situations de misère, inondations, vols, etc. Donc cet infléchissement d'un certain cinéma africain subsaharien vers la fiction, ça c'est aussi une nouveauté.
Parlons d'Ama Gloria, parce que Ama Gloria qui a ouvert la Semaine de la Critique, alors vous, Mariama Choukeli, vous n'êtes pas originaire du continent africain, mais vous avez tourné au Cap-Vert.
Ça me fait rire, en tout cas.
Non, mais vous avez tourné au Cap-Vert. Ouais. On a peu d'images de fiction de ce pays,
ouais.
Voire pas. Enfin, je ne sais même pas s'il existe une industrie cinématographique.
Alors, il y a eu beaucoup de documentaires tournés au Cap-Vert. Et en fiction, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul film cap-verdien de fiction, donc, qui s'appelait Cap-Vert, mon amour. Et voilà, je crois qu'on est
un des rares films.
Un des rares films, oui.
Tourné là-bas.
De fiction, en tout cas, à tourner là-bas, oui.
Et ce choix est lié au choix de votre actrice, puisque vous racontez, on y reviendra plus longuement, mais l'histoire d'une nounou qui doit quitter la France, retourner dans son pays parce que sa mère est morte, elle doit s'occuper donc de ses enfants biologiques et donc laisser la petite fille française dont elle s'occupait. C'est lié le choix du Cap-Vert, ce n'était pas à l'origine dans votre scénario?
Non, j'ai rencontré beaucoup de nounous pour m'inspirer et à l'écriture, mais aussi après dans l'interprétation que je voulais donner du personnage. Donc j'ai mangé beaucoup de gâteaux et j'ai fait beaucoup de thé, voilà. Donc ça, c'était plutôt agréable. Et un jour, j'ai rencontré Ilsa Moreno, qui donc joue le personnage de Gloria. Et Ilsa nous vient du Cap-Vert. Elle vient de l'île de Santiago et d'un petit village à côté de Tarrafal où on a tourné. Et donc, du coup, j'ai réécrit totalement le scénario en fonction d'Ilsa, de ce qu'elle me racontait de sa vie. Et elle fait partie de ces femmes qui sont obligées de quitter leurs propres enfants pour aller en Occident, en l'occurrence en France, élever ceux des autres. Et du coup, ça me tenait très à cœur d'aller tourner chez elle. Voilà. Et elle nous a ouvert les portes là-bas. C'est grâce à elle qu'on a pu tourner aussi. Et du coup, elle était aussi bien interprète principale que première assistante. Elle a fait un travail incroyable aussi pour porter le film dans ce pays où effectivement, il n'y avait pas eu de tournage.
Donc Ama Gloria qui ouvre cette semaine, la semaine s'est ouverte sous cette égide. Julien, la quinzaine s'est aussi ouverte quelque part sous une égide africaine, puisque juste avant la projection du film d'ouverture, Le procès Goldman, était décerné le Carrosse d'or à Souleymane Cissé, qui lui, un cinéaste malien, qui a une longue histoire aussi avec la quinzaine. Hein.
Exactement. C'est le choix de la SRF cette année que de récompenser Souleymane Cissé. Je pense que c'était une façon de mettre un cinéaste africain à l'honneur et d'envoyer ce signal aussi à la profession. Et puis, voilà, de récompenser le geste d'un très grand metteur en scène.
Souleymane Cissé, qu'Elisabeth, hein, vous avez rencontré plutôt dans la semaine.
C'est très important parce que si la profession reconnaît les films que tu as faits, je pense que c'est une des récompenses exceptionnelles.
Quand ils vous ont appelé, la toute première réaction, c'était quoi?
J'avais pas de mots. Hein. C'était une très grande surprise. Beaucoup d'émotions, oui.
Voilà, de l'émotion pour Souleymane. Si c'est, on reparle plus longuement de la sélection de la semaine, de la sélection de la quinzaine, de votre film Maria Machoukelis et Ama Gloria. Juste après cette pause musicale, un petit clin d'œil aussi à la matrice de série que vous êtes, Ava Cahen. On va écouter The Weeknd, la musique de The Idol, puisque les deux premiers épisodes de la série réalisés par Sam Levinson vont être projetés hors compétition. You want me inside, yeah. Make me to slide, yeah. Knowing we should have never met. Girl, when you ride it, see you decide it. Don't say those words that you'll regret. Baby girl, I can tell that you think that I'm right for you. I already know that it's not true.
I said your envelope came with a poem. You possess venom that came with a charm. You get the good out of me when I perform. I know the bad in you, that's what I want. And you a baddie, you turning me on. Fiend for your demons, I know where it's going. Love when you fucking be talking, I know what you're doing. Caught up in love, what the fuck is we doing? Bottles and bottles with us, ain't that good? I tell you I got you, that's well understood. Your legs on the big, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the pop and leave none in the store. If I go to Saturn, I know that you're gone. Fuck me on Saturday, early in the morning. Fight in the bird, she gon' open her door. Dreaming I murder, but showing you remorse. Gotta be cautious, can't play the support. Stars in the ceiling, don't feel like the porch. Came from the trenches, just living on war. Once was a prostitute, I can afford the one I adore.
Temperature rising, bodies united. Now that I've trapped you in my arms. No need to fight it, no need to hide it. Now that I've seen what's in your heart. Baby girl,
vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie d'Ava Cahen, déléguée générale de la Semaine de la Critique, de Julien Rège, son homologue de la quinzaine des cinéastes, et de Marie Ama Choukelis, la réalisatrice d'Ama Gloria. Julien Rège, donc vous prenez les rênes. Cette année, c'est votre première sélection de la quinzaine. Vous étiez déjà programmateur avant, donc c'est pas, vous ne découvrez pas le poste.
Davantage programmateur depuis une société de distribution, bon, même si j'ai également programmé un festival non compétitif qui était le festival du magazine SoFilm. Mais oui, donc je connais l'autre côté du paysage.
Comment vous avez composé votre sélection? Comment ça fonctionne aussi peut-être avec Ava, Kaen? Est-ce que vous discutez entre vous? Il y avait une sorte de partage de Yalta?
Non. Et je pense qu'en plus, les choses se sont faites assez simplement. Évidemment, on s'est rencontrés très tôt quand je suis arrivé. Et on s'est présenté voilà, nos envies respectives. Mais tout naturellement, je ne crois pas que c'était forcément... une bonne chose ou sain d'avoir à se communiquer sur les films que nous découvrions. Et je crois, enfin en tout cas, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais moi, de mon côté, lors de mes échanges avec les ayants droit des films, le hasard des choses fait qu'on s'est rarement positionné sur les mêmes objets. Et moi, je trouve ça plutôt réjouissant parce que... De nouveau délégués à Cannes sur des sélections parallèles, chacun avec une identité forte et qui donc a envie de montrer des films différents, ça ne fait qu'accroître la richesse des sélections proposées au festival.
Bah pas mieux. Non, mais c'est vrai qu'on cherche de toute façon, avec les sections parallèles, une complémentarité et essayer d'offrir un panorama global. Alors évidemment que nous, c'est premier et deuxième film, mais voilà, on travaille évidemment à ça. Moi, j'ai toujours considéré le Festival de Cannes et toutes les sélections comme plutôt des sélections amies, avec qui on pouvait travailler main dans la main, justement pour le bien des films, en réalité.
Vous avez une ligne de directrice forte, Julien, pour cette sélection? De prospection, de contre-programmation, de surprise, de surprendre peut-être.
Oui, surprise. L'envie première, évidemment, était d'amener des films audacieux, qui prenaient des risques, évidemment avec la mise en scène comme critère principal de sélection, d'invention de nouvelles écritures qui passent par les outils propres au cinéma. Mais je dirais, voilà, enfin, il n'y a rien non plus de révolutionnaire dans ce geste. Je pense que c'était simplement revenir à un esprit premier qui était celui de la quinzaine, à savoir de faire un pas de côté par rapport à l'officiel, puisque c'est dans ces conditions que la quinzaine est née, et d'aller chercher des projets qui étaient peut-être moins identifiés, moins repérés déjà par les gens qui établissent des pronostics, les ateliers qui accueillent des films pour les aider à se développer, etc. Donc il y avait cette idée de... J'avais envie de pouvoir donner la chance à tout le monde, et notamment à des micro-budgets, des autoproductions, des choses comme ça. Donc l'idée, c'était vraiment, on ouvre au maximum les possibilités. Et encore une fois, on s'est laissé guider ensuite par... c'est un travail collectif, hein, c'est un travail d'un comité de sélection. On était tous plus ou moins raccord sur l'envie qu'on avait, le désir de cinéma. Et après, les choses, sincèrement, ne se font pas très politiquement, elles se font très pragmatiquement.
Ava, à la semaine, comme c'est des premiers et deuxièmes films, l'idée, c'est aussi de révéler, de découvrir. C'est ça qui est peu excitant, de découvrir
tout à fait.
Les nouveaux
d'année
talents.
En année, en réalité. C'est ça qui... C'est grisant. On ne peut pas le dire autrement, c'est-à-dire que tous les ans, on a un regard neuf, effectivement, avec le comité de sélection, et puis des nouveaux films qui nous arrivent de par le monde. Et c'est vrai que cette année, la compétition de la Semaine de la Critique en est aussi la preuve. Elle est très internationale, il y a à la fois un film jordanien, un film brésilien, un film malaisien, un film belge. Je viens de parler de micro-budget, on vient de présenter là à l'instant « Il pleut dans la maison » de Paloma Sermondaï, qui est un film avec un tout petit budget, et on a envie aussi de défendre ces cinématographies ici.
C'est des films qui, par exemple, ne peuvent pas avoir de distributeur encore?
Pas encore, mais alors là, il se trouve que c'est la grande nouvelle et la grande victoire de cette année pour nous, c'est que tous les films qu'on a sélectionnés ont trouvé un distributeur. Donc je suis ravie parce que le but du jeu, c'est aussi celui-ci, c'est de pouvoir accéder évidemment à la salle de cinéma et de faire en sorte que les auteurs, les films, rencontrent un public. La compagnie des films, c'est quand même merveilleux.
Tout à l'heure, on parlait du film de Kauter Benania comme un film qui a la croisée entre fiction et documentaire. Il me semble que dans vos deux sélections, Julien Rège et Ava Kaen, il y a aussi des films comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut dire transgenre, cross-genre, hybride. C'est ça, hein, à la croisée de la fiction, du documentaire, du burlesque et du western.
Par exemple. Moi, c'est vrai que j'ai plusieurs cinéastes de la sélection cette année qui viennent du documentaire et qui ont franchi le pas de la fiction. Donc, on parlait tout à l'heure de Rosine Mbakam avec Mambar Pirette. On pourrait aussi parler d'Ilya Povolotsky, le cinéaste russe qui venait du documentaire et qui signe une fiction, mais qui a un road movie à travers la Russie, qu'on pourrait appeler un road movie documentaire. Donc, oui, les formats hybrides sont à l'honneur. Avec aussi, au-delà de la question du documentaire-fiction, la question des genres. En fait, je suis assez heureux que la sélection de la quinzaine soit représentative de différents genres de cinéma, du western, du polar, de l'aventure, de la comédie, du cinéma queer, etc. Et je ne sais pas s'il y a un seul film qu'on pourrait qualifier vraiment de film de genre en tant que tel. Donc, ils échappent à la fois à toutes les catégories, mais ils se nourrissent de différents motifs de cinéma.
Et je pense, Maria Mazzucchelli, qu'on peut aussi dire voir Ama Gloria comme un film à la croisée des genres. Ah, vous me regardez avec des grands yeux. Alors, c'est, oui, là. Déjà, Ama Gloria, donc l'histoire d'un lien si particulier qui unit une petite fille de 6 ans, orpheline de mère, à sa nounou capverdienne, obligée de retourner dans son pays à la mort de sa mère.
C'est quoi toutes ces photos ?
C'est des souvenirs. Les petits bébés là. Avec une grosse tête là. C'est César. Ma soeur à côté de moi. Ça c'est Nanda.
Donc là, dans cet extrait, Maria Mazzucchelli, dans cet extrait d'Ama Gloria, la petite fille Cléo. Était tellement désespérée de voir sa nounou repartir pour le Cap-Vert qu'elle a réussi à négocier et pouvoir y aller pendant les deux mois d'été, c'est
ça ? Les deux mois d'été, ouais. Un dernier été ensemble, ouais.
Et donc, dans cet extrait, elles sont toutes les deux sur le lit, chez Gloria, qui présente, en fait, sa famille, ouais, à cette petite fille.
Ben alors, justement, pour rebondir à ce que vous disiez, c'est que là, par exemple, les photos qu'on voit, c'est vraiment les photos du papa, de la maman, de la grand-mère, l'enfant de Ilsa, qui interprète donc Gloria. J'aime beaucoup, moi, m'inspirer de ces bribes de documentaires et de les intégrer dans la fiction, de même que les gens qui jouent les pêcheurs, parce qu'il y a des pêcheurs dans le film, c'est les pêcheurs du coin. Et de la même façon, les enfants qui interprètent les enfants de Gloria, ils ont une histoire très commune avec celle de leur personnage. Par ailleurs, j'aime aussi aller de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire passer du documentaire à la fiction. Et là, j'ai tenté une incursion dans des séquences animées. Donc,
c'est ça, il y a des séquences d'animation, mais même dès le début.
Ça s'ouvre là-dessus, on peut le dire.
Ça s'ouvre, ouais, là-dessus, c'est de la peinture ?
Alors, c'est de la peinture animée, absolument. C'est de la peinture sur verre. Donc, ça a été fait par des jeunes femmes incroyables. Il se trouve que c'était des femmes, parce qu'elles sont très douées et très bonnes en peinture sur verre, il faut le savoir. Donc, c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut faire tout ça image par image, et qu'on n'a pas le droit au remords. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer. Et que, un peu comme au début du cinéma, un jour, on découvre sa séquence, elle bouge, et si on s'est planté au milieu, ben, on ne peut pas refaire, vous voyez ? Donc, du coup, voilà. Donc, il y a à la fois une excitation très grande à fabriquer ça, et une grande peur aussi. Ouais.
Et en plus, la peinture sur verre, c'est aussi une spécialité sénégalaise et capverdienne.
Les capverdiens font de la peinture, oui, absolument.
Non, mais le choix de cette technique d'animation, c'est fait par hasard et...
Non, parce que elle s'est pas fait par hasard. Elle s'est fait parce que la peinture, c'est de la matière. Et que le film, je crois, essaye une incursion dans le sensoriel. Et que cette matière-là de peinture animée, etc., rend l'effet, en fait, de sensation. On a envie de moi, j'ai envie de la toucher, en tout cas. Je trouve qu'il y a quelque chose de vivant. Qui n'est pas numérique, effectivement. Et après, il y a tout un jeu de couleurs. C'est très coloré. Et là, on s'est inspiré, si vous voulez tout savoir, de Peter Dogg et de Félix Vallotton pour les couleurs. Chic, n'est-ce pas, comme référence. Mais parce que c'est des gens pour qui le ciel n'est pas bleu, il peut être orange, la terre peut être violette. Pourquoi ? Parce que c'est des paysages qui représentent l'intériorité des gens et le sentiment qu'on y porte. Voilà.
Et là, ces séquences animées servent aussi à exprimer ce que ressent cette petite fille de 6 ans.
Absolument, elles servent à dire tout ce qu'elles n'arrivent pas à dire. Donc du coup, c'est une manière de faire ressentir encore une fois aux spectateurs les passions, les orages et les joies qu'elles traversent.
Il y a ces mélanges esthétiques et puis il y a aussi dans le mélange des genres le fait que Ama Gloria, ce soit un mélo, mais pas un mélo tire-larme.
Bon, ça va.
et qui twiste un peu, parce que ça porte un nom. Alors moi j'ai découvert ça aussi grâce à vous, Maria Mazzucchelli, mais c'est vrai que les films de nourrice, de nanny, c'est les nanny movies aux États-Unis. C'est ça, c'est presque un genre en soi du cinéma.
C'est un genre en soi du cinéma américain, je précise, parce que c'est... Voilà. Et c'est souvent des comédies. Alors, c'est Madame Doubtfire, c'est Madame Esservie, dans la série. Et donc, comme quoi, c'est un personnage assez central dans la vie de beaucoup de gens.
Mary Poppins aussi.
Et voilà. Alors ça, Mary Poppins, moi, c'est ma grande référence, mon grand choc, mon grand amour, l'amour de ma vie éternelle, tout quoi. Donc oui, et qui raconte aussi, et en peinture, c'est-à-dire en dessin animé et en live, la vie de ses enfants et la vie de cette nounou. Voilà.
Ce qui est très surprenant, Maria Mazzucchelli, dans votre film, c'est que souvent, quand on parle des rapports Nord-Sud, ça donne des films assez, assez violents, assez durs, etc. Et là, vous montrez les rapports Nord-Sud via un angle très particulier. C'est vous montrer en fait ce que l'amour peut transcender, etc. Et ce que l'amour ne peut pas transcender. Et du coup, ça, c'est absolument poignant.
Mais je peux pas dire mieux que vous. C'est effectivement ce que l'amour peut et ce que l'amour ne peut pas. Je repensais effectivement à moi, ma nounou, quand j'étais petite, et tout l'amour que j'avais pour elle, et le fait que effectivement, quand elle est repartie, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'à l'époque je le comprenais pas. Et donc j'ai eu besoin de me retourner vers ça pour essayer de comprendre et de justement l'autre côté du miroir, l'autre côté de ce qu'on ne nous raconte pas en fait. Et c'était un peu l'ambition du film d'aller là-bas en fait, d'essayer d'interroger ça. En tout cas.
On va là-bas juste en musique avec Césaria Évora, Petit Pays.
Tem batu, tem funanã, espanhol nesse mundo fora. Só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funanã, oi, tanto saudade, saudade, saudade. Tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar e na mar boiou areia que cata moiar espanhol nesse mundo fora. Só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funanã, espanhol nesse mundo fora. Só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funanã, petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Todos os cinemas do mundo na RFI.
Le Cap-Vert avec Césaria Évora, le Cap-Vert aussi qu'on voit dans Ama Gloria. D'ailleurs, vous avez évidemment tourné au Cap-Vert, alors dans un endroit particulier, parce que c'est un archipel.
C'est un archipel merveilleux. Et il y a une île qui est l'île de Santiago, qui est la capitale administrative. C'est là où on atterrit. Et on est allé de l'autre côté de l'île, en traversant les montagnes, dans le village de Tarrafal, où on a été accueillis par des gens exceptionnels. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, nous ont aidés, parce que c'était un film de femmes et qu'elles tenaient à ce que cette parole, elle soit portée aussi. Donc, quand je dis qu'elles nous ont aidés, c'est que non seulement elles nous ont aidés, elles nous ont accueillis, et elles ont travaillé aussi sur le film. Il y a eu des gens très importants comme ça du village qui ont constitué une partie de l'équipe. Donc, l'équipe était française en partie et capverdienne de l'autre.
Et vous allez représenter, vous allez projeter le film.
Bah là, c'est la grande excitation aussi, parce qu'il y avait la grande excitation de l'ouverture de la semaine. Et ça, c'était un moment inoubliable dans nos vies, vraiment. Et maintenant, il y a le moment où on peut faire voyager le film et l'apporter à ceux qui l'ont fabriqué aussi, c'est-à-dire les Cap-Verdiens. Ouais. Et ça, c'est bientôt, c'est dans une semaine, deux semaines, trois semaines, mais très vite.
À Magloria, on le disait, ça évoque effectivement les rapports nord-sud via un angle rarement montré, exploré, cet angle-là d'un amour entre une nounou et sa petite fille. Est-ce que vous avez le sentiment, enfin, au-delà du cas d'À Magloria, avec Aen, Julien Règle, que le festival, cette année, est aussi une chambre d'écho, enfin on dit souvent, un peu tous les ans, la chambre d'écho des crises, la chambre d'écho crise sociale, crise politique. Est-ce que c'est le cas encore cette année dans vos sélections respectives? Le film qui a ouvert la quinzaine, c'est quand même Le procès Goldman, film éminemment politique de Cédric Kahn.
Le film est assez emblématique de la question de quand un cinéaste colle à son sujet, se préoccupe avant tout de trouver la meilleure expression cinématographique pour raconter son histoire. Je pense que Cédric Kahn, pour en avoir parlé avec lui, n'avait pas forcément conscience, en tout cas pas à ce point-là, qu'il était en train de réaliser un film aussi contemporain, qui résonnait autant avec l'actualité. On parle d'ultra-gauche aujourd'hui. Le film met en représentation, fait plutôt le portrait d'un activiste d'extrême-gauche des années 70, qui est chose très différente de ce qu'on entend par ultra-gauche aujourd'hui. Mais voilà, il y a plein de ponts qui se dessinent tout seuls, parce qu'un cinéaste croyant fermement au sujet, à la matière dont il s'empare, et en le traitant par les moyens du cinéma avec des questions de mise en scène, il y a quelque chose qui transcende. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je dirais que plus les cinéastes sont collés le nez dans le guidon à leur projet cinématographique, le plus ils font écho à ce qui se passe dans le monde, en fait.
Vous, Ava Kahen, avant que vous partiez, je sais que vous êtes pressé par le temps, que vous devez lancer une prochaine séance de la semaine, mais avant de partir, est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre sélection, il y a, je pense notamment à un film
serbe aussi. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que l'intime est très politique. Et à travers le regard des enfants, des adolescents, qui sont souvent les protagonistes des premiers et des deuxièmes films qu'on a cette année en compétition, eh bien, il se joue quelque chose. Évidemment, le film jordanien, c'est la première fois qu'un film jordanien est présenté à Cannes et à la Semaine de la Critique. Il s'appelle Inch'Allah a Boy. Le réalisateur s'appelle Amjad Al-Rachid. Et il parle évidemment de la condition des femmes en Jordanie. Mais en fait, on pourrait complètement ouvrir, le champ, puisque c'est de conditions de la femme tout court, en fait, dont on parle dans des sociétés sous domination patriarcale. Donc évidemment qu'il y a des sujets politiques très forts, mais qui passent par l'art, par le cinéma et aussi par des personnages. Et en fait, ce sont les auteurs, les réalisateurs, les réalisatrices qui s'emparent de ces sujets-ci. Et c'est comment, c'est ce que tu disais, Julien, on transcende tout ça et notre... c'est comment ça nous emballe, nous, voilà.
Le film Inch'Allah me fait que j'ai vu également, mais me fait penser à un film qui a été projeté ce matin à la quinzaine, qui s'appelle In Flames de Zahar Khan, un film pakistanais sur la société patriarcale pakistanaise et comment elle affecte la vie des femmes de manière répressive, évidemment. Et ça me fait penser que qu'il s'agisse de réalisateurs ou de réalisatrices, la remise en cause, ou plutôt tout simplement l'évocation des sociétés patriarcales, de leurs effets, avec au cœur des films des portraits féminins très forts, et ça, quelque chose qui traverse la majorité des films. Alors peut-être pas la majorité, mais en tout cas une grande partie des films.
Ava Kahen, Julien Rey, j'ai une question pour tous les deux sur la façon, comment est-ce qu'on mesure le succès d'une sélection? Est-ce que c'est après coup forcément? Je pense par exemple à l'édition 2022 avec AN de la semaine, avec After Sun, qui a eu un beau succès en salle. C'est le succès en salle des films après qui fait le...
En fait, c'est le parcours, j'allais dire, que font les films. Cannes, c'est le premier marchepied, c'est la première mise en lumière. Et nous, on accompagne avec la Semaine de la Critique les auteurs, puisque ce sont des découvertes, ce sont des premiers films, des jeunes talents, tout au long de l'année. Et on mesure le succès d'une sélection en voyant comment ces films résonnent, comment ces films rayonnent, comment ils voyagent. Et c'est vrai qu'After Sun est un très très bel exemple, puisqu'il a été distribué en salle en France et a rassemblé plus de 150 000 spectateurs. Et puis il y a une nomination pour Paul Mescal, acteur de ce film, aux Oscars. Donc voilà, c'est effectivement de bons signaux. Et ça nous donne de la force et de l'énergie pour pouvoir justement envisager sereinement les éditions suivantes.
Alors évidemment, je pense qu'on attend tous à ce que les films qu'on sélectionne rencontrent leur public. On fait émerger les cinéastes pour cette raison, pour que les films soient diffusés et faire reconnaître des talents et leur donner la possibilité de faire d'autres films. Pour ma part, je dirais que je pense que le succès d'une édition, ou plutôt le succès d'une sélection comme la Quinzaine, je la penserais peut-être sur le moyen ou le long terme. C'est-à-dire, si on arrive à... Parce que chaque programmateur, chaque délégué général a sa personnalité, a sa façon de faire, sa ligne éditoriale, à rassembler, à reforger une identité... Ou dans laquelle, au sein de laquelle une communauté de cinéastes se reconnaît et du coup a envie de venir à la Quinzaine. Je crois que c'est ça aussi le plus beau signe de la réussite d'une sélection.
Marie Amachoukeli, bien sûr.
Parce que je ne suis pas sélectionneuse, mais je suis spectatrice. Sur les éditions de toutes les sélections confondues, ce qui est vrai... qu'en tant que spectatrice, ce qui m'a toujours marquée, touchée, et j'ai trouvé que les sélections étaient réussies, c'est quand il y avait une audace aussi à un endroit d'aller chercher du nouveau. Parce que c'est important et que Cannes, c'est aussi cette place-là et qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on est ravis de voir les stars. Et vraiment, moi, la première, je vois Nicole Kidman, Kate Blanchett, je suis trop contente. Mais on a besoin de plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau et c'est possible ici.
Voilà. Merci Julien Rège.
Merci à vous.
Merci à Vakaen.
Merci beaucoup.
On vous libère juste parce que vous avez vos films à lancer. Mais j'avais encore une question à poser à Marie Amachoukeli. Vous allez voir des films là cette année. Vous avez prévu d'aller voir des films?
Moi, j'ai la grande chance de faire l'ouverture, donc je ne suis pas en compétition. Donc maintenant que ce moment est passé, j'ai la possibilité de sereinement aller voir des films. Donc je compte bien aller voir par exemple ce soir Vincent doit mourir de Stéphane Quinstan, qui est un cinéaste court-métragiste qui passe au long-métrage que j'adore. Et donc je suis surexcitée d'aller voir son film. Je suis trop heureuse qu'il soit sélectionné. Et par ailleurs, dans les éditions précédentes, j'ai été une spectatrice du Festival de Cannes et j'ai pu aller dans différentes... En tant que court-métragiste, j'avais des court-métrages sélectionnés à Cannes dans différentes sélections. Et donc, on allait voir les longs-métrages. Et la jeune génération de cinéastes en herbe qui va voir des longs-métrages a besoin à la fois d'aller voir des classiques et il a besoin de se dire qu'il y a une génération qui démarre avec eux, avec elle, avec lui, et qu'on peut grandir ensemble en proposant des choses nouvelles. Donc oui, c'est hyper important d'avoir ça. Ouais.
Vous avez du fin. Non, mais vous êtes hyper cinéphile. Ce que je rappelle, Marie Amachoukeli, je l'ai pas dit encore, mais vous aviez décroché en 2014 avec Claire Burger et Samuel Taïs la Caméra d'Or pour Party Girl. Donc j'imagine que là, cette année 2014, je ne sais pas si vous aviez pu voir des films cette année-là, si vous vous souvenez des autres films. Si, vous avez des souvenirs nets de ce festival particulier, de ce festival-là, où Caméra d'Or, meilleur premier film.
J'avais vu à cette édition le film avec Ronnie Tedcabet, c'est son frère. Qui s'appelait Le Procès, je crois, et que j'avais adoré, qui était à la Quinzaine d'ailleurs, et qui m'avait bouleversée, je crois, à l'époque. Donc je m'en souviens très fort, parce que j'avais trouvé le dispositif incroyable, l'interprétation incroyable, et le sujet déjà à l'époque était celui d'une femme qui essaye de se libérer de l'emprise de son mari qui ne veut pas divorcer, et qui est, voilà. Et pour l'époque, vraiment, c'était audacieux, hein. Donc voilà, ça a commencé là aussi. Ouais.
Et c'était pas la première fois que vous veniez à Cannes, donc
puisque non. Vous aviez des courts-métrages avant.
Oui, on avait eu à la Ciné-Fondation Forbach. Après, on a eu à la semaine C'est gratuit pour les filles, qui était le premier long-métrage en sortant de l'école. Et après, moi, en tant qu'auteur, j'avais écrit pour Franco Loli. Alors, le titre français, c'est Une mère incroyable, mais parce qu'il est colombien, le film. C'est Litigante. Et il avait aussi fait l'ouverture de la semaine de la critique. Donc, c'est une place que je trouve merveilleuse.
L'ouverture ?
L'ouverture, bah oui. C'est incroyable de faire l'ouverture pour moi. Vraiment, j'en ai pleuré de joie, hein, vraiment. L'ouverture, c'est fou.
Vous avez pleuré de joie pour Ma Gloria ou pour
Non, pas quand Ava Kahn nous a dit qu'elle nous offrait la place de l'ouverture. J'ai trouvé que c'était un écran magnifique pour le film, quoi, qu'on pouvait pas. Alors que c'est un petit film qu'on a fait tant bien que mal aussi, quand même. On pouvait pas nous offrir une plus belle place, quoi.
Merci Maria Mashukeli.
Merci beaucoup.
On se quitte en musique avec la très belle reprise de Stand By Me par Gabriels. Une prestation remarquée lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I will cry, I will cry. Shed a single tear, just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, da da da, stand by me. Oh, baby, stand by me. Stand by me.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Apolline Verlon,
à la technique Richard Rifono. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même pavillon des cinémas du monde, pour une émission bilan avec notre panel de critiques internationaux. D'ici là, bonne semaine et bon festival à tous.
As you stand by me. Stand by me. Need you to stand by me. Stand. Stand by me.